C'est du jamais vu, ces feux cet été, qui ont duré, on l'apprend tout l'été en Amazonie.
Par leur ampleur, oui, et par leur étendue, oui.
Notre maison brûle, voilà ce qu'a tweeté Emmanuel Macron hier soir.
Le grand incendie de la forêt amazonienne, c'est 1990.
La forêt amazonienne brûle. L'opinion internationale s'en est émue cet été, appuyée par des photos, pas toujours récentes d'ailleurs, soit de la forêt en feu, soit de cartes satellites montrant l'immensité des foyers ou des concentrations de monoxyde de carbone au-dessus de l'Amazonie. Mais autant du côté des défenseurs de la lutte contre le réchauffement climatique que de ses détracteurs, de nombreux chiffres contradictoires ont été avancés. On parle d'une augmentation de près de 90% des départs de feu par rapport à l'an dernier, ou au contraire d'une nette diminution par rapport aux incendies géants d'il y a plusieurs années. Que faut-il croire ? Bonjour Catherine Aubertin.
Bonjour.
Vous êtes économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement. Alors est-ce que l'Amazonie brûle aujourd'hui plus qu'hier ?
Je crois que pour comprendre cette inflation de chiffres, il faut savoir comment on les produit et qu'est-ce qu'ils sont censés mesurer. Donc, ils mesurent la déforestation et les départs de feu. Et on peut pas mettre la déforestation dans une seule case. Il y a beaucoup de situations différentes. D'abord, le feu fait partie de l'agriculture amazonienne. On met le feu pour préparer les cultures, pour entretenir un pâturage. Certaines graminées ne poussent que si... Il y a eu une mise à feu auparavant.
C'est-à-dire une culture sur brûlis.
La culture sur brûlis aussi, la culture des friches brûlis, donc qui est une pratique traditionnelle où chaque année on brûle une petite parcelle de terre avec des rotations pour pouvoir disposer de la végétation à différents stades. C'est ce que font les Amérindiens et ça préserve la forêt et ça permet de tirer un maximum d'intérêt de la biomasse forestière.
Mais il y a aussi une partie de la déforestation qui se passe par des incendies provoqués qui ne relèvent pas d'une culture de l'agriculture traditionnelle.
Non, alors c'est ce qui se passe effectivement actuellement et c'est pour ça d'ailleurs que c'est assez inquiétant, c'est qu'on s'aperçoit cette année que la très très grande majorité, certains disent 90% des feux sont le fait de grands fazendeiros ou alors des chercheurs d'or, des exploitants forestiers et puis des gens peu scrupuleux qui vont s'accaparer des terres non encore. Or, on appelle ça des terres non dévolutes, des terres de l'État qui sont censées être libres. Bon. Après, on peut les vendre, ces terres. C'est-à-dire qu'un hectare de forêt déforestée vaut plus cher qu'un hectare de forêt à pied. Pourquoi ? Parce que si vous achetez un terrain déjà déforesté, vous n'êtes pas tenu aux normes environnementales qui s'imposent actuellement.
Sur quoi se fonde le chiffre de 87% de départs de feu supplémentaires par rapport à l'année dernière ? S'il y a vraiment 87%, c'est quasiment un doublement.
Les feux, ça ne veut pas dire la déforestation. Et puis, il faut savoir où ils sont situés. Si vous regardez les données de l'INPI, c'est l'Institut National de Recherche Spatiale. C'est une sorte de NASA, c'est un organisme qui a été créé... pour la conquête spatiale d'ailleurs, et qui a été chargé dès les années 88 de suivre les déforestations en Amazonie. Et il y a plusieurs types de satellites. Il y a un satellite qui suit la déforestation annuelle, qui est le PRODES, donc avec des images Landsat de 20-30 mètres. Et un autre satellite qui s'appelle le DETER, qui lui est un système d'alerte. Vous voyez, donc déjà, les deux données seront différentes.
Il faut relativiser ce chiffre de 87% de départs de feu supplémentaires ou est-ce que tout de même c'est une réalité?
Je ne sais pas combien ça a été calculé. Parce que les calculs, on les fait... d'abord, il faut savoir où ils sont. C'est-à-dire ce chiffre, je crois que c'est pour tout le Brésil. Donc, c'est quand même pas exactement la même chose. Parce que il faut bien distinguer les chiffres qui sont donnés pour tout le Brésil. Là, on parle des statistiques qui sont données par l'INPI. Donc, pour tout le Brésil, pour l'Amazonie légale, qui est une structure administrative,
c'est-à-dire
et pour le biome amazonien.
Voilà, c'est-à-dire qu'il comprend d'autres pays, la Bolivie...
Non. Le biome amazonien qui est calculé, dont la destruction est actuellement calculée par l'INPI, et vraiment, ce sont des États brésiliens. Mais il y a l'État du Maranhão et l'État d'une partie du Tocantins, on ne peut pas vraiment dire que ce soit encore de la forêt. Au 31 août, j'ai regardé récemment, on va avoir, disons, 52 000 pour le Brésil, 39 000 pour l'Amazonie légale, mais sur la forêt elle-même, on n'en est qu'à 30 000 départs de feu. Et donc, ça veut dire que la forêt amazonienne, le biome, est responsable de 60% des mises à feu. Et c'est ça qui est nouveau aussi. Parce que généralement, donc, ça brûle, mais ce sont surtout les savanes centrales du Brésil, c'est-à-dire les cerrades, où le feu est une pratique tout à fait habituelle. Les écosystèmes sont adaptés au feu, ce qui n'est pas le cas de la forêt amazonienne.
Il y a d'autres chiffres qui sont avancés, notamment qui indiquent qu'on s'émeut de ces incendies cette année, mais qu'ils étaient beaucoup plus importants il y a quelques années, notamment dans la décennie 2000-2010. Ça aussi, Catherine Aubertin, vous pouvez le confirmer ou l'infirmer ?
Alors, il faut distinguer la chute de la déforestation qui a eu lieu à l'initiative du président Lula et avec toute une série de mesures entre 2004 et 2012. Là, on a vraiment assisté à une chute, mais ce n'a pas empêché en 2004 et en 2005 des pics de déforestation, généralement dus à des situations de sécheresse.
Aujourd'hui, quel lien peut-on faire entre ces incendies massifs et l'accession au pouvoir de Jair Bolsonaro?
Bon, on lui met beaucoup de choses sur le dos. D'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas s'en priver. Mais dans le cas précis, on va s'apercevoir que, par exemple, ça brûle beaucoup plus en Bolivie. Là, on est à 1 million d'hectares en feu. C'est quelque chose d'absolument impressionnant. Ce que la politique de Bolsonaro explique, c'est cette importance de ce nouveau type de déforestation à grande échelle, où là, c'est vraiment quelque chose qui est pensé. On va chercher les arbres les plus gros, les plus intéressants au point de vue valeur, on les enlève. Après, on passe avec des gros tracteurs et une chaîne entre les deux tracteurs pour mettre à bas la végétation qui reste. On attend que ça sèche, 3 mois, et là, on met le feu. C'est pour ça qu'il y a ce décalage entre la déforestation et les feux.
On a pu lire que la forêt amazonienne pourrait, suite à ces incendies, passer de puits de carbone à émettrice de carbone. Comment est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Déjà, la forêt amazonienne est une vieille forêt et elle absorbe bien peu de carbone. Ce qu'il faut considérer, c'est non pas ses flux où elle absorbe du carbone, mais son caractère de stock. C'est-à-dire qu'elle stocke du carbone. Si on met le feu aux arbres, là, on va dégager du CO2.
D'autres études montrent que cette forêt amazonienne, plus elle est déforestée, plus le climat s'assèche. On parle de la possible fin de l'évapotranspiration, c'est-à-dire cette faculté que la forêt a à générer de l'humidité. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut imaginer que la forêt amazonienne se transforme en savane dans les années qui viennent ?
Les savanes, le cerrado, ce sont des écosystèmes très riches. Donc, la savanisation, c'est un côté péjoratif. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que la forêt amazonienne ne pourrait plus bénéficier de tous ses services écosystémiques. C'est-à-dire non seulement les stocks de carbone, mais également, comme vous le dites, la régulatrice dans les cycles hydrologiques. Le cycle de l'eau, elle recycle de l'eau et on y est déjà. C'est-à-dire que déjà, on a des saisons sèches plus importantes dans le sud du pays. Parce que la forêt amazonienne, elle reçoit de l'eau de l'océan. Elle-même, elle produit par évaporation et elle va déverser sous forme de pluie sur le sud du Brésil, le sud de la Bolivie, un peu l'Argentine, etc.
Des chercheurs avaient publié dans la revue Science l'année dernière, en 2018, qu'une destruction de 20 à 25% de la forêt amazonienne pourrait faire s'effondrer justement ce cycle d'évapotranspiration. Depuis les années 1970, on en est à 19% de déforestation. Est-ce que ça veut dire qu'on est au bord du point de non-retour ?
Malheureusement, on y est déjà. Et ça, c'est plus lié au changement climatique, au dérèglement climatique d'une façon générale. Et là, moi, j'ai insisté beaucoup pour dire que, bien sûr, Bolsonaro a sa part de responsabilité, mais que nous avons tous notre part de responsabilité, parce que ce dérèglement climatique est bien lié au réchauffement dû aux émissions de gaz à effet de serre.
Merci beaucoup Catherine Aubertin. Je rappelle que vous êtes économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement. Merci.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.